franceinter.fr.
L'homme de Néandertal qui n'en a pas fini de nous surprendre, de nouveaux secrets sur ses capacités se cachent très certainement dans ces étranges constructions de stalagmites découvertes au fond de la grotte de Bruniquel dans le Tarn-et-Garonne. Jacques Jaubert et Dominique Gentil, bonjour, vous êtes avec nous en ligne. Bienvenue. Vous êtes avec Sophie Verheyden, donc les trois auteurs principaux de cette étude parue dans la revue Nature. Jacques Jaubert, vous êtes préhistorien à l'Université de Bordeaux et Dominique Gentil, paléoclimatologue, directeur de recherche au CNRS, spécialiste de la datation des stalagmites. Alors Dominique Gentil, à quoi ressemblent d'abord ces mystérieuses structures, ces spéléofacts comme vous les appelez ?
Alors en fait, ça ressemble à des cercles. Il y a une grande structure, un cercle qui fait 5-6 mètres de diamètre. Et vous imaginez donc des tronçons de stalagmites alignés, superposés au fond d'une grotte. Voilà, donc ça ressemble à ça. Il y a deux grandes structures annulaires et puis à côté et au centre des petites structures qui sont des amas plutôt de stalagmites.
À quelle distance de la sortie se trouve justement cette structure ?
Alors elle se situe à environ 300 mètres de l'entrée actuelle. Voilà.
Le tour de force de votre travail a été de dater précisément ces structures, moins 175 000 ans. Comment est-ce que vous avez fait, Dominique Gentil ?
Alors en fait, nous avons carotté, donc effectué, extrait des échantillons sur la structure. Donc nous avons eu la chance que cette structure, elle est composée de calcite, donc de stalagmites composées de calcite, et c'est un matériau qu'on peut dater par des méthodes radiométriques. Donc on a daté les repousses de stalagmites qui ont poussé sur la structure, qui ont donné un âge minimal, et puis on a adapté aussi au sein même de la structure des stalagmites, les sommets des stalagmites, qui ont donné un âge maximal. Et on a eu une fourchette d'âge qui était tout à fait cohérente et qui a donné 176 000 ans.
Et Jacques Jaubert, compte tenu de l'âge, les seuls auteurs possibles, c'est les Néandertaliens ?
Oui, sans hésiter, parce que tout simplement en Europe, enfin en Eurasie à ce moment-là, donc de l'autre côté de la Méditerranée, face à l'Afrique, il n'y a qu'une seule humanité, il n'y a qu'une seule espèce, ce sont les Néandertaliens, c'est la lignée néandertalienne qui a pris corps vers à peu près 500 000 ans et qui a disparu vers 45-50 000 ans avant le présent.
Ça a été une surprise énorme pour vous, cette datation, et justement imaginer que Néandertal avait pu déjà à cette époque construire de telles structures ?
Oui, tout à fait, parce que je vais vous faire une confidence. J'ai visité et j'ai même expertisé la grotte peu après sa découverte, dans les années 90, et nous avions fait des paris où on devinait que ces structures pouvaient être anciennes. On pensait à un âge 20 000 ans, 25 000 ans, 30 000, 40 000. Une première date a été obtenue supérieure à 47 000 ans, qui est passée un peu inaperçue. Oui. Et quand Sophie m'a téléphoné, Sophie Verheyden, que vous avez mentionné, m'a téléphoné les résultats, j'étais en vacances en Italie, et elle m'a téléphoné ses résultats, et on était complètement stupéfait. Oui, parce que là, franchement, c'est un résultat qui dépassait nos espérances.
Aucune erreur possible dans vos calculs ?
Mais ça, il faut demander à Dominique.
Non, en fait, on a la chance, comme je vous l'ai dit, d'avoir un matériau qui était adaptable. On a pu encadrer l'âge de la structure, l'âge minimal et maximal, qui était dans la même marge d'erreur. Et c'est une méthode qui est prouvée, et on a fait plusieurs analyses sur plusieurs échantillons, donc là, j'ai vraiment très sûr.
Alors Jacques Jaubert, la présence de ces spéléofacts, qu'est-ce qui nous enseigne de nouveau sur les Néandertaliens ? Parce que là, on parle de plein de nouvelles choses.
Oui, pour moi, ce qui vient en tête des nouveautés, c'est l'appropriation du monde souterrain. Le monde souterrain, le monde des grottes profondes, c'est un monde qui est difficile, qui est obscur, qui peut être dangereux. On peut y faire des rencontres difficiles, comme des animaux, l'ours notamment. Et cette appropriation de ce monde difficile, jusqu'à présent, c'était le fait de l'homme moderne. C'est le conteur resté bloqué sur les premières grottes ornées, avec des dessins, des peintures comme Chauvet. Et voilà, Chauvet ou des sites contemporains, parce qu'on cite toujours Chauvet, mais il y a d'autres cavités comme Alden par exemple dans l'Hérault. Là je reste bloqué vers 36, 37, 38 000 ans. Et là d'un seul coup on est à 175, 176 000 ans. On bascule sur une autre humanité.
Voilà. Beaucoup d'informations aussi concernant la maîtrise du feu.
Oui, alors le feu est connu depuis longtemps, plusieurs centaines de millénaires. Les sites les plus sûrs avec le feu, c'est au Proche-Orient, vers 700 000 ans. En Europe, on a plusieurs sites avec du feu, Terra Mata, Bisingsleben et d'autres vers 300 000 ans. Mais en fait, le feu se généralise dans les sites archéologiques un petit peu plus tard, vers 200, 150 000 ans. Comme par hasard à l'époque de Bruniquel, ce qu'on appelle le paléolithique moyen et dans sa période ancienne. Et le fait d'avoir pas mal de traces de feu à Bruniquel, pour nous c'est très important bien sûr, pour démontrer le caractère anthropique des structures.
Qu'est-ce qu'ils venaient faire dans cette grotte alors, les Néandertaliens ? Qu'est-ce qu'on peut imaginer alors de leur volonté d'aller si loin dans un endroit quand même peu accessible et dangereux comme vous le disiez ?
Et ben, Écoutez, ça fait plusieurs jours que je réponds, que nous essayons de répondre à cette question, ouais. Et on s'en tire par une pirouette. On est dans une première phase de l'étude. Hein. On a fait une étude à distance. On a échantillonné grâce à Dominique, Sophie. On a pu dater. On l'a décrite. On a une photogrammétrie. Ok, mais on n'a pas encore eu accès au sol archéologique. Donc, on n'a pas de vestiges contemporains. On a très peu d'éléments sur cette structure en dehors des éléments qui la constituent. Donc voilà, ça c'est plutôt une étape future de la recherche. Alors après, par élimination, il y a bien quelques hypothèses qu'on peut déjà un peu écarter. Moi je crois pas trop à un habitat refuge, par exemple.
Dominique Gentil, pour en savoir plus, est-ce que vous avez prévu d'aller creuser sous la calcite, de peut-être démonter une partie de la structure ?
Ben écoutez, ça serait une éventualité. Après, la structure et toute la grotte va être protégée, donc... les opérations d'archéologie vont être bien contrôlées. Et effectivement, ça serait très intéressant de voir si sous le plancher qu'il y a au centre de la structure, on peut éventuellement trouver des traces, des empreintes, qui sait.
En tout cas, une très belle découverte et qui réécrit quand même une partie de l'histoire de Néandertal. Hein. Il faudra maintenant évidemment en prendre compte, et c'est ce que vous avez fait en découvrant donc la datation de cette grotte, 175 000 ans. Jacques Jobert, Dominique Gentil et Sophie Vereden, hein, parce qu'il faut la citer aussi, oui, évidemment. C'est elle qui vous a embarqué dans cette grotte. Merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages, et puis on consacrera une émission très prochainement à Néandertal pour revenir justement sur ses capacités qui n'en finissent pas de nous surprendre. Merci beaucoup, bon week-end Axel.
Bon week-end Mathieu.
Et à lundi. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, moins vieille mais toujours souterraine justement, plus de 70 figures préhistoriques viennent d'être révélées sur les parois d'une autre grotte, Atxura, dans le Pays Basque espagnol. Des chevaux, des cerfs, des aurochs, des créatures hybrides, des bisons, les œuvres d'art pariétal décelées dateraient d'environ 14 000 ans pendant la période magdalénienne. Connue des scientifiques depuis 1929, la caverne était inaccessible et seuls quelques spéléologues ont pu s'y aventurer. Ces gravures se situent à plus de 300 mètres de l'entrée. Elles sont distribuées sur une centaine de mètres. Un projet scientifique de 3 ans a été programmé justement pour poursuivre les recherches. Des recherches publiées également dans la revue PLOS ONE qui ont récemment mis en évidence des comportements homosexuels chez des femelles gorilles des montagnes. Ces ébats avaient déjà été observés dans les années 80 par la primatologue Diane Fossey. 30 ans plus tard, les scientifiques estiment que ces actes ne représentent ni un comportement de domination, ni un rituel d'initiation, et qu'ils ne visent pas non plus à résoudre certains conflits. Reste donc l'excitation sexuelle. Pour les auteurs, les femelles gorilles chercheraient tout simplement le plaisir. Et puis pour finir, une nouvelle espèce de fourmi, appelée communément fourmi licorne, qui vient d'être découverte dans des morceaux d'ambre dans le nord de la Birmanie. Selon une étude publiée dans Current Biology, cette grande fourmi qui mesurait 1 cm de long vivait il y a 99 millions d'années, et cette fourmi possédait une corne épineuse qui surplombait sa tête et qui servait probablement de fonction sensitive pour évaluer les proies et peut-être même les stabiliser par friction avec les épines. Une découverte surprenante puisque cet arsenal semble très évolué pour une espèce aussi ancienne.